L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Transistor, à midi en direct et en rediffusion à 18h. Depuis la pandémie de coronavirus, on a beaucoup évoqué la santé mentale des jeunes. Selon une étude publiée par Santé publique France en février 2023, qui portait sur la période 2017-2021, les jeunes de 18 à 24 ans ont connu la hausse la plus importante de la prévalence des épisodes de dépression. En 2017, 11,7% de ces 18-24 ans étaient concernés par un épisode dépressif et ils étaient 20,8% en 2021. Donc ça fait près d'un jeune adulte sur 5 en France. Donc là, on est sur des chiffres de France. Par ailleurs, je me souviens que quand j'ai commencé le journalisme en Bretagne, il y a plus de 20 ans, je traitais déjà de sujets sur le suicide, qui était à l'époque surreprésenté dans notre région par rapport au reste du pays. Donc aujourd'hui, on réunit un peu les deux sujets, la santé mentale des jeunes, en particulier le suicide, la prévention de ce suicide. C'est en compagnie d'Orphée Recoin, que vous connaissez bien, c'est le président du GEM L'Envol, le groupe d'entraide mutuelle de Quimper. Il est aussi membre de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, puis aussi du comité d'éthique de l'EPSM, c'est l'établissement public de santé mentale du Finistère Sud. Il fait plein de choses. Orphée, bonjour.
Bonjour.
Et puis il y a d'autres personnes en studio qui vont témoigner. Il y a notamment Denise et Alex. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Orphée, on va commencer avec donc un état des lieux quand même du suicide ou des tentatives de suicide aussi en Bretagne. Alors c'est difficile d'avoir des chiffres déjà sur la tranche d'âge concernée, sur la zone géographique, c'est ça hein,
Ouais, alors je pense qu'on va déjà, on va déjà juste préciser trois termes sur le suicide qui me semblent importants en introduction. Ce sont les termes suicidaire, suicidant et suicidé.
Alors j'ignorais le terme suicidant déjà.
Alors le terme suicidaire, ce sont d'une part les conduites à risque, mais aussi les pensées noires, les idées, les ruminations extrêmement négatives, voilà, ces choses-là.
Donc ça désigne pas les personnes, ça désigne les comportements. Quoi.
Ça désigne voilà les comportements et le passage à l'acte, c'est le suicidant. Et le suicidé, celui qui est décédé.
Ah oui, parce que quand on fait une tentative, on peut être suicidant. Enfin, on est qualifié de suicidant.
C'est ça.
Même si on n'a pas réussi fort heureusement sa tentative. D'accord. Bon, j'ignorais ce terme, c'est assez récent.
C'est de la nosologie psychiatrique.
Et qu'est-ce qu'on a comme données alors, et puis sur quelle tranche d'âge enfin, c'est... Là, on ne va pas, par exemple, parler des enfants aujourd'hui.
Chez les moins, on va en parler, mais très brièvement. Chez les moins de 13 ans, c'est le suicide est la cinquième cause de décès. Et chez les 15, 25, 29 ans, ça devient la deuxième cause de décès.
Ça, c'est les chiffres France, Bretagne
France.
Oui.
Par exemple, effectivement, en Bretagne, il y a un taux de suicide plus important.
C'est
toujours le cas. En Bretagne que dans le reste de la métropole. Cependant, le taux de létalité est le même.
Ah oui. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas de chiffres sur les enfants ? Enfin, très peu.
Je pense qu'il y a des études, mais j'ai pas eu le temps d'aller sur PubMed.
Il y a beaucoup de choses.
Puis il y a des. Il faut aller voir les CHU, il faut aller voir les centres, les données des centres. Psychiatrique destiné aux jeunes, au moins de 16 ans.
Les données n'ont pas été regroupées.
C'est très compliqué déjà de regrouper. D'abord, c'est du secret médical. Ça demande une procédure d'acquisition de la donnée anonymisée pour que l'étude épidémiologique soit respectueuse des droits des personnes. Et ensuite, ça prend beaucoup de temps à être compilé, analyser, recouper éventuellement avec d'autres, d'autres facteurs, d'autres données, puisque corrélation n'est pas raison.
Non, voilà. C'est ça, il n'y a pas forcément de lien de cause à effet. Et ce qu'on appelle jeune, ça va jusqu'à quel âge en général ?
Alors, on considère la maturité cérébrale, la fin de la maturité cérébrale vers l'âge de 25 ans.
Ouais, d'accord. Voilà. Donc là, on va se concentrer plutôt sur la tranche 16-25 ans. Donc sur cette tranche-là, en Bretagne, donc il y a combien de... C'est quoi les tentatives, déjà, de suicide ?
Alors, sur la Bretagne... le taux chez les plus de 10 ans, mais je n'ai pas trouvé entre 10 et 25, hein. Pas encore, je trouverai ça un jour, mais voilà. Chez les 10 ans et plus, ce taux était en baisse par rapport à 2010.
Mmh. Voilà. Ah bon ?
Oui, il avait retrouvé son niveau pré-pandémique en 2021 après une baisse après l'année 2020. Après l'année 2020.
Et c'était quoi le taux, en gros ?
Alors, le taux, je vais vous le trouver.
On va se perdre dans les chiffres.
Non, vous inquiétez pas.
C'est juste pour avoir une idée, hein, de l'ordre de grandeur. Combien de jeunes de cette tranche d'âge ont fait des tentatives de suicide ? Une tentative de suicide, ou plusieurs d'ailleurs. On va y revenir. Bon, bah c'est pas grave, on y reviendra plus tard dans l'émission.
Malheureusement, ouais. J'ai pas la donnée exacte sur.
Et qu'est-ce qu'il y a comme données ? Qu'est-ce qu'on peut avoir, quoi, pour se rendre compte du phénomène ?
Au niveau national, en 2021, on enregistre 8951 décès par suicide, soit 13,9 pour 100 000 personnes.
Bon.
Au niveau national. Les hospitalisations pour TS concernaient plus les femmes que les hommes.
Ah oui.
Dans les hospitalisations pour TS, ayant augmenté en 2021 par rapport à 2017-2019. Et chez les femmes, la classe d'âge des 10-19 ans était la plus touchée.
Mmh. Alors,
que chez les hommes, il s'agissait des 30-39 ans.
Ah oui.
Voilà. Et la part des jeunes de 10-24 ans augmentait, tandis que celle des 25-64 ans diminuait. Bon. Voilà. Et celle des 65 ans et plus reste stable.
Alors, voilà, maintenant, bon, on a donné quelques chiffres, mais en fait, ce n'est pas tellement le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est le pourquoi. Enfin, c'est ça, je pense.
Ah bah, le passage à l'acte suicidaire peut avoir des raisons très différentes. D'abord, il y a les états de maladie psychiatrique qui, avant d'être traités, peuvent entraîner des tentatives de suicide. Et on a des témoins pour en parler tout à l'heure.
La dépression, par exemple.
Alors, la dépression, c'est encore un autre facteur. C'est-à-dire que la dépression, il y a peut-être... une maladie neuropsychiatrique. Je commence à distinguer des choses. Quoi. Une maladie neuropsychiatrique qui s'appellerait la dépression chronique profonde. Ça, je pense que ça existe, effectivement. Mais il y a plein de raisons de basculer d'un état a priori d'une vie agréable à une vie qui est une souffrance. Et la dépression, c'est une vraie maladie, quoi, je dis.
Oui, mais ça peut être une cause. Ça
peut mener au suicide, effectivement. Ouais, voilà.
Il y en a d'autres. Il y a d'autres maladies psychiatriques qui peuvent entraîner des gestes suicidaires ou des tentatives.
Oui. Il faut les distinguer les unes des autres. C'est-à-dire qu'il y a des maladies neuropsychiatriques qui. Où le geste suicidaire n'est pas forcément d'ordre de la dépression.
Mmh. Voilà. Ah oui, tout à fait.
J'ai le récit d'un ami qui a fait une thèse de cet ordre-là. Et c'est parce que il entend des voix. Il est schizophrène, il entend des voix, lui. Et il continue à les entendre malgré le traitement qui le stabilise et qui lui permet de vivre à peu près correctement. Et les voix l'ont harcelé jusqu'à ce qu'il saute.
Ouais, c'est des voix insupportables, en fait.
Voilà.
Ouais. Et donc ça, c'est des causes, bon ben voilà, identifiées. Est-ce qu'on peut, par exemple, ne pas avoir de maladie psychiatrique et faire des tentatives de suicide, voire des suicides ?
Ah oui, tout à fait.
D'accord.
Par exemple, vous, dans l'émission précédente que j'ai entendue sur votre sur vos ondes ce matin. On parlait beaucoup de, justement du poids, de la représentation du corps, de la façon dont c'était diffusé sur les réseaux, et en particulier chez les femmes, une espèce de fascination pour une idéation du mannequinat, hein, j'ai l'impression.
Qui existe depuis longtemps.
Et qui ne correspond pas à la réalité des corps que l'on rencontre tous les jours. C'est faux.
C'est ça.
Voilà. Et cette dissonance cognitive extrêmement puissante peut être une cause de troubles de comportement alimentaire et éventuellement de dépression et de suicide et de tentatives de suicide.
Et on dit d'ailleurs que l'anorexie mentale, justement, qui consiste à ne plus s'alimenter, est une forme de suicide lent. Enfin, je pense que c'est assez reconnu maintenant en psychiatrie.
C'est plus compliqué que ça, l'anorexie mentale, que de dire que c'est du suicide. Non, c'est une volonté absolue de maîtrise.
Ouais, mais il y a un souhait de mourir, non ? Enfin, je dis certaines d'ailleurs, c'est parce que c'est plutôt des filles, mais
c'est vraiment, je pense, pour l'expérience que j'en ai eue, non pas à titre personnel, mais pour ce que j'ai pu en connaître, c'est une volonté de contrôle absolu sur le réel, quelque chose qui est très qui de fait est très dangereux. Moi, j'ai connu des jeunes femmes, une femme anorexique qui, elle, était anorexique, faisait du sport, elle était dans un espèce d'équilibre complètement fou.
Il n'y avait pas de volonté de mort affichée,
mais il y avait une espèce de volonté, de discipline totale, complète et absolue, et de contrôle total, complet et absolu sur le corps.
On a des témoins, des suicidants, c'est ça, si j'ai bien compris, qui ont accepté de nous parler. Denise, vous pouvez nous raconter vos expériences, je ne sais pas.
Alors, ce que je voulais rajouter aussi au niveau des jeunes, là, ce qui a aussi énormément recrudescence, c'est les tentatives de suicide pour le harcèlement.
Alors voilà, c'est ça. Les causes ont un peu évolué, la société évoluant, c'est ça. Donc harcèlement sur les réseaux sociaux, j'imagine.
Scolaire, réseaux sociaux. Et ça commence vraiment dès 8-10 ans. Quoi.
Et c'est bien identifié maintenant comme cause.
Oui. Alors, effectivement, c'est... ce n'est pas qu'une cause de la médiatisation. Je pense que c'est une cause... mais aussi de la médiatisation. C'est-à-dire que le harcèlement scolaire, il a toujours existé.
Oui.
Dans les situations de violence dans les cours d'école, on a toujours connu ça, c'est vrai, quoi. La différence aujourd'hui, c'est que maintenant, ça se couple avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'un harcèlement, il finit par s'organiser aussi en réseau social.
Et puis du coup, ça sort de l'école largement, quoi.
Alors, ça peut sortir de l'école, mais pas toujours.
Enfin, quand je dis ça sort en termes de réception. La personne qui reçoit le harcèlement le reçoit en dehors de l'école, c'est ça.
Je veux dire, une bande de jeunes qui prend une tête de turc et qui a décidé de lui faire la misère toute sa vie.
Et
ils se font un groupe WhatsApp et ils s'organisent.
Oui, c'est ça.
Je veux dire, c'est aussi bête que ça. Et le groupe WhatsApp ou Snapchat, ils sont tranquilles, quoi.
Alors, pour en revenir à vous, Denise, par exemple, votre témoignage, qu'est-ce que vous voulez nous raconter, en tout cas.
Moi, j'ai eu à pratiquer les tentatives de suicide à partir de l'âge de 13 ans.
Ah oui, vous avez commencé tôt.
J'ai eu un créneau 13-18. Voilà. Alors, je n'étais pas encore diagnostiquée. Moi, je suis bipolaire. Et j'étais pas encore diagnostiquée à cette époque-là. Et pour moi, j'avais une vie, en fin de compte, de jeune, tout à fait normale, heureuse, dans ma famille, bien entourée et tout. Et par contre, ben, y avait des pulsions qui me faisaient monter d'un seul coup en phase excessive. Et ça se concrétisait ben, à ce moment-là. La seule solution pour moi d'échapper à cette pulsion, c'était la tentative de suicide.
Ah voilà. Oui, c'était une souffrance, évidemment.
C'était
enfin,
une
j'imagine.
Souffrance, mais c'était pas progressif.
C'était un pic brutal.
C'était un pic brutal qui arrivait. Pourquoi, je ne sais pas.
Et tout voilà. À coup, vous disiez, il faut que je meure. Enfin, voilà, quasiment, quoi.
Complètement.
Et qu'est-ce que vous employiez comme moyen, du coup
J'ai essayé les médicaments, je me suis ouvert les veines. Enfin, c'était vraiment divers.
Et quand vous retrouviez vos esprits, entre guillemets, enfin, comment ça se passait?
Allô, au secours. Au secours, j'ai fait une bêtise. Voilà, c'était...
Et votre famille, comment elle réagissait?
Ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient. À cette époque-là, les jeunes en souffrance comme ça, il y a 40 ans, il n'y avait pas tout cet entourage médical et voilà.
Oui, puis ces maladies n'étaient beaucoup moins connues.
Médecins,
en fait.
Les médecins ouais. disaient à mes parents, en fin de compte, bon, c'est une jeune ado difficile, quoi.
Voilà. Je vois. Ça lui passera.
Ça lui passera. Ah oui. C'est une ado difficile et voilà.
Et maintenant, je suppose que vous êtes soignée, enfin que
complètement,
ça va
oui.
et que vous n'avez plus ces pulsions.
Non.
Donc voilà, vous êtes un cas, on va dire presque mécanique entre guillemets, enfin en tout cas
ouais.
de
ouais, bon, ouais.
Le diagnostic ouais. de la maladie. Ouais. Et c'est heureux déjà.
Ouais.
Et vous, Alex, alors c'est un autre cas, je pense. Racontez-nous.
Alors moi, ça s'est traduit particulièrement. D'une manière simple, je me suis retrouvé seul. J'étais seul, je souffrais de solitude.
À quel âge, à peu près?
Vers les 16-17 ans, mais les tentatives de suicide se sont faites à partir de 18 ans. Et j'ai de 18 ans à 25 ans. Et ça a été des tentatives de suicide compulsives.
Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire que c'était comme une attirance... Comme quand on est chronophage ou des choses comme ça. Ça a été, pour moi, la première chose qui s'est passée, c'est que je me disais, tu ne veux plus vivre, mais tu vas répéter tes actes parce que tu n'as plus rien autour de toi, quoi.
Oui, il n'y avait rien qui vous retenait à la vie, c'est ça que vous voulez dire?
Voilà, plus rien ne me retenait à la vie.
Et malgré tout, vous ne vous sentiez pas dépressif, ou enfin, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Il n'y avait pas d'autres symptômes, entre guillemets, autres que ces pulsions?
Alors au départ, ça a été de la dépression, ouais.
Ah mais, oui, quand même.
Ouais, mais après, ça s'est traduit par de la schizophrénie qu'on n'a pas réellement diagnostiquée au début.
Ah quoi. Oui, mais elle était déjà là, en fait, sans doute.
Elle était déjà là, ouais. Ouais.
Orphée, sur ces pulsions, comment on appelle ça?
Alors, on appelle ça le risque de raptus suicidaire.
Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Oui.
Ah ben, c'est le risque de passage à l'acte suicidaire, tout simplement. Et il y a plein de facteurs divers. Là, on vient d'entendre une personne qui a un diagnostic bipolaire, une autre qui a eu un diagnostic de schizophrénie, mais il n'y a pas besoin d'avoir des diagnostics d'ordre neuropsychiatrique pour risquer la crise suicidaire. C'est-à-dire un burn-out au travail, qui est une maladie en hausse.
Malheureusement,
c'est clair. Oui.
En tout cas, un contexte, quoi. C'est ça. Ça peut être le travail, ça peut être une rupture sentimentale, j'imagine.
Alors,
un deuil, peut-être.
Oui, et puis en plus de ça, il y a des fois dans la vie, on n'a pas de chance. Il y a des enchaînements de faits qui vous mettent la tête dedans et vous voyez, ne voyez plus rien.
Et on se sent coincé.
Et on est complètement coincé, mmh. acculé, rupture amoureuse. Et puis, 2 mois après, on se fait virer de son boulot et on se retrouve au chômage pour quelques questions économiques où on vous a imputé une faute grave et il va falloir partir au prud'homme pour se défendre. Donc vous avez du juridique en plus qui vous attend. Et puis...
Puis endettement.
Pas de bol. Vous êtes sorti, vous étiez tellement déprimé, vous êtes une bonne biture au Café
C'est
du Coin. Vous prenez une bonne biture au Café du Coin parce que c'est une échappatoire possible. Et puis vous rentrez chez vous un peu pété au volant et vous vous finissez dans le fossé. Vous perdez votre bagnole, votre permis.
Ça arrive assez régulièrement, on va dire.
Ce sont des choses qui arrivent. Mmh. Et c'est pas du psychiatrique,
ouais.
c'est du contextuel.
Et
le contextuel, par accumulation de difficultés, peut vous amener à un état psychologique tel que vous vous dites elle est où la porte de sortie ?
Et vous, Alex, c'était pas ça. Quand vous dites, donc vous, c'était la solitude, c'était la seule chose vraiment identifiée, ou est-ce qu'il y avait autre chose ? Est-ce que vous aviez envie de boire de l'alcool, de prendre des produits
Moi, de toute façon, les étapes dans ma schizophrénie et dans mes tentatives de suicide compulsif se traduisaient particulièrement par des. Par des traitements de médicaments. J'avalais mes médicaments.
Ah, mais tout seul.
Si je ne l'ai jamais fait avec l'alcool ou des choses comme ça. J'ai voulu faire avec de l'alcool, mais j'ai pas réussi. Je me suis dit que ça allait pas marcher.
Ah oui, donc vous aviez les médicaments à portée de la main, quoi.
J'avais les médicaments à portée de la main parce que j'étais suivi par un psychiatre.
Ah oui, quand même, d'accord.
Il me donnait un traitement qui était très efficace, d'ailleurs, que je n'acceptais pas, parce qu'autour de moi, on me disait « oui, tu es schizophrène ». Enfin, je vais pas rentrer dans le pathos, ça a évolué au fur et à mesure que j'ai fait de mes tentatives de suicide, en fait.
Pareil avec des médicaments, les tentatives de suicide.
Tout le temps avec des médicaments, tout le temps.
Et est-ce que quand on essaye avec les médicaments, ça veut dire qu'on espère quelque part, au fond de soi, être sauvé à temps ou pas ?
Ah, pour une de mes tentatives, oui, ça s'est passé comme ça. J'ai crié, ma mère était présente, et j'ai crié « Maman, maman, maman !» Donc je me suis dit « Bon, tu es en train de faire un appel à l'aide, quoi, un SOS. »
Bah oui, c'est ce qu'on dit souvent, quoi.
Mais
d'autres,
il y a eu des passages où je ne voulais plus exister, quoi.
Mmh. Bah
c'est,
oui,
c'est peut-être ce moment-là qui a été le moins signifiant, quoi. Parce que là, j'ai pas pris de médicament, je n'avais plus envie de vivre. C'est pas vraiment du suicide, quoi. C'est plus une sensation de manque d'intérêt total pour la vie, quoi.
Ok, ouais, je comprends. Et donc, il y a aussi des tentatives dont vous ne vous souvenez pas.
Bah non.
Vous en avez fait combien, vous savez ?
À peu près 5, ou même peut-être plus, ouais.
Et maintenant, vous allez comment ?
Très bien.
Et en fait, grâce à quoi vous allez très bien ?
Grâce à mon suivi chez un psychiatre et mon suivi médicamenteux, quoi.
Ouais.
C'est ça qui m'a sauvé la vie. Et je sais parfaitement que je vivrai avec des médicaments toute ma vie, quoi. Mais ça ne me pose aucun problème puisque je suis enfin guéri, quoi.
Ouais, et puis parce que vous n'êtes pas tout seul. Et c'est là que je voudrais. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour parler de prévention, mais c'est important. Il y a le médical, le psychiatre, les médicaments, mais il y a aussi autre chose, peut-être. Le social. Enfin, je ne sais pas comment le dire.
Il y a deux choses qui se passent actuellement en psychiatrie et qui commencent à un peu rentrer dans la pratique psychiatrique. Alors, d'abord, ce sont les droits des patients. Alors, c'est encore difficile, hein. C'est compliqué à mettre en place, c'est compliqué à faire respecter, c'est pas facile dans un contexte professionnel aussi tendu que le milieu hospitalier d'avoir des protocoles qui respectent vraiment les droits des patients. C'est vraiment pointu, quoi. c'est de l'ergonomie de poste de travail, c'est des trucs assez subtils. Et comment dire Dans les... La deuxième chose qui commence à émerger en psychiatrie, c'est l'idée du rétablissement. Qu'on se rend compte enfin que des personnes qui ont des passages psychiatriques plus ou moins graves, soit des maladies chroniques type bipolarité, schizophrénie, dépression chronique profonde, enfin des psychopathologies qui sont chronique, quoi.
Mais on peut quand même vivre avec, quoi.
Mais
c'est ça.
Voilà, oui, ouais. On peut vivre avec.
Et être totalement inséré, en fait.
Totalement inséré, c'est plus compliqué. Mais il y a plein de chemins, en fait, pour accéder à une vie sociale enrichissante, pertinente, sympa, avec des moments de joie, de partage, avec des productions d'idées, de projets. Voilà,
c'est stimulant. Oui. Voilà. Denise, ouais. Un petit mot de la fin.
Il y a aussi quelque chose qui se met de plus en plus en place, c'est le principe de pérennence.
Ah oui. Entre
ouais, la pérennence.
Ouais. C'est le GEM, en fait.
Ça, c'est la fonction de la GEM. Ouais. Mais alors, ensuite, je voulais...
On n'a plus de temps, c'est ça le problème.
Plus du tout, même ouais. pas sur la... Alors,
juste si, très vite, alors, en 30 secondes.
30 secondes. Numéro de prévention nationale du suicide.
Qu'on le mettra sur le site internet, voilà. Mais on peut le dire parce qu'il est facile.
C'est le 3114, voilà. Vous pouvez aussi faire la recherche sur internet et il y a aussi un site avec des ressources dedans. Et voilà, si...
Oui, mais ça sera noté sur le site de la radio.
Ouais, mais ouais, mais c'est... Si ça vous arrive, n'hésitez pas à appeler. Quoi.
Et puis si vous connaissez quelqu'un qui est concerné.
Oui,
ouais.
Ah, et le repérage, mais voilà, ouais. C'est ça qui manque encore. Par ouais. contre, il y a eu, il y a des formations comme la formation de premier secours en santé mentale qui est en plein déploiement actuel.
Dont
en
on
France.
Doit parler dans une émission, d'ailleurs, on l'a dit.
Voilà, dont on parlera dans une émission, entre autres. Et donc voilà, il y a une culture. De la santé mentale, finalement, à toute chose, mal répond, qui est en train de rentrer petit à petit dans la société et qui vient remettre enfin un peu en cause les préjugés et les idées reçues sur ce qu'est une santé mentale.
Eh bien, on en reparlera prochainement. Merci beaucoup à tous les quatre, tous les trois.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup.
Au revoir.